14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Une affaire d'espionnage digne des romans de John le Carré au plus fort de la guerre froide, au centre du procès de Francis Tamperville. Il comparaît pour trahison.
Bonjour, une taupe française, l'un des espions les plus insoupçonnables, les plus indétectables et les plus prolifiques jamais répertoriés par les services de renseignement. Un monsieur tout le monde qui, pendant des années, aura livré des dizaines de petits et de grands secrets aux Russes. C'est ainsi qu'est apparu au terme d'une longue enquête le dénommé Francis Tamperville, un ingénieur atomiste célibataire, rêveur et fantaisiste qui avait accès aux secrets de la dissuasion française. À ce jour, l'affaire Tamperville, par la nature du principal acteur et par l'ampleur des informations transmises à Moscou, demeure l'une des pages les plus spectaculaires du grand livre de l'espionnage. Comment cet homme effacé et timide a-t-il été retourné par une puissance étrangère? Comment a-t-il pu, durant des années, livrer des milliers de documents classés secret défense sans se faire remarquer selon un scénario, on va le voir, digne des meilleurs James Bond? Les enquêteurs vont tomber des nues quand celui-ci va raconter dans le détail son crime de haute trahison. Nous allons en parler avec nos invités et acteurs de cette histoire.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Francis Tamperville, à la fin de l'été 92. Hormis sa mère, sa grand-mère et quelques amis, personne ne connaît le nom de cet ingénieur atomiste passionné. Un nom soudain surgit au détour des confidences d'un agent secret russe. Ce lundi 14 septembre 1992 au matin, trois policiers de la direction de la surveillance du territoire, la DST, sonnent à la porte d'un petit appartement dans une résidence de Saclay, dans l'Essonne. Les hommes du contre-espionnage français ont repéré les lieux la veille. Le locataire ouvre sans la moindre hésitation, c'est le dénommé Francis Tamperville. Un ingénieur de 35 ans, visage plutôt juvénile, cheveux mi-longs, les yeux écarquillés. Il ne pose aucune question quand la police lui demande de la suivre pour un interrogatoire, rue Nélaton, le siège de la DST dans le 15e arrondissement de Paris. Francis Tamperville est rapidement informé des faits qui lui sont reprochés. Une source extérieure, qui n'est pas révélée dans l'immédiat, a accusé l'ingénieur d'avoir depuis plusieurs années, au moins 5 ans, divulgué des informations de première importance à la Russie. Des documents protégés issus du centre de l'énergie atomique à Saclay, où il a officié pendant des années. Des secrets ayant trait au nucléaire militaire. La source en question n'est autre que le colonel Viktor Otchenko, ancien haut responsable du SVR, l'ex-KGB chargé de l'espionnage scientifique. Il a fui à l'ouest, un transfuge réfugié à Londres depuis le mois de juillet. Face aux policiers, Francis Tamperville ne cherche pas à jouer au plus malin, même s'il ne va cesser de vouloir minimiser son rôle et vouloir apparaître comme un homme naïf. À vrai dire, il paraît plutôt soulagé d'avoir été démasqué après toutes ces années de mise sous tension. Il savait que les choses allaient mal tourner. Au mois d'août, après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Barcelone, il a reçu un coup de téléphone de l'un de ses contacts qui l'a averti. « Francis, je suis malade, j'ai reçu un virus. » Tu as dû l'attraper, il faudrait que tu partes. Tamperville dit n'avoir rien compris à ce charabia. Il sait aujourd'hui que le virus en question était les déclarations du transfuge Otchenko. Les enquêteurs s'interrogent sur ce Tamperville, personnage courtois et lisse dont le curriculum vitae ne semble receler aucune zone d'ombre. Il est né à Dunkerque le 29 avril 1957. À l'âge de 9 ans, il a perdu son père. Il a été élevé par les deux femmes de sa vie, sa mère qui tient une maison de la presse papeterie dans le Nord et sa grand-mère. Ce bon élève, fort en maths, a poursuivi ses études de physique-chimie grâce à une bourse. Il va ensuite être admis à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Il décroche son diplôme d'ingénieur en génie atomique, docteur en physique nucléaire, avec les félicitations du jury. L'avenir s'annonce encourageant pour ce garçon qui déclare n'avoir qu'une passion, l'atome. En cette année 1987, il soutient sa thèse. Il sait que les portes des plus belles institutions vont lui être ouvertes. Tamperville n'a jamais eu beaucoup d'argent. Il donne des cours pour arrondir ses fins de mois. Il publie alors cette annonce dans un journal gratuit. Étudiant ingénieur, troisième cycle de physique nucléaire, donne cours de maths physique-chimie, expérience, annonce qui va taper dans l'œil des recruteurs russes de l'ambassade du RSS à Paris, toujours à l'affût de nouveaux talents. Le 15 septembre, le physicien est mis en examen pour trahison, écroué à la prison de la santé. L'enquête va ausculter les rouages d'une opération menée de main de maître, digne du meilleur des romans d'espionnage. Fin 1986, après avoir publié son annonce pour donner des cours de physique-chimie, Francis Tamperville raconte aux policiers avoir été contacté par un certain Serge, un étranger qui parle avec un léger accent et qu'il croit être britannique. Il affirme ignorer son nom de famille et n'a jamais eu son adresse. Serge a répondu à l'annonce. Il veut prendre quelques cours de remise à niveau. Il se présente comme un ingénieur et dirigeant d'une PME dans le domaine scientifique. Serge règle ses leçons rubis sur l'ongle, toujours en cash. C'est un élève attentif, ponctuel. Les deux hommes finissent par sympathiser. Serge paraît apprécier les qualités pédagogiques de son ami Francis. Il lui demande de lui fournir de la documentation technique sur tel ou tel système ou encore de rédiger quelques rapports. La remise de ces documents, pour l'instant inoffensifs, est bien payée. Serge est très arrangeant. Il invite même le jeune physicien autour de bonnes tables dans la vallée de Chevreuse pour parler de tout et de rien. Serge s'appelle en réalité Sergueï Jmirev, officier du KGB, deuxième secrétaire de l'ambassade de l'Union soviétique à Paris. 1er octobre 1989, Francis Tamperville intègre le sein des saints, la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, à Limeil-Valenton, un lieu cerné de barbelés dans lequel il faut monter patte blanche pour entrer. Son profil a été retenu. Tamperville a désormais accès à toute une documentation protégée, des documents classés secret défense de nature particulière. Il a accès à certains travaux sensibles concernant le nucléaire militaire, notamment aux tirs expérimentaux de missiles sur l'atoll de Mururoa, une technologie où la France est alors innovante, en pointe. Serge l'a chaperonné pendant 3 ans. Il est plus que jamais dans sa vie. Devant les enquêteurs, Tamperville fait cet aveu. « J'ai fourni des documents VLC Vulcain. Il s'agit de documents très secrets ayant trait au tir de Mururoa. J'ai transmis autant de documents qu'il y a eu de tirs durant mon séjour au CEA. » Pendant les 10 premiers mois passés dans l'institution, le physicien va fournir 112 documents hautement sensibles et protégés. Les Russes se frottent les mains. Tamperville a gravi les échelons. Leur poulain est l'un des meilleurs. Chaque fois qu'il se montre réticent, on le menace de le dénoncer. On lui dit que sa mère et sa grand-mère en paieront les conséquences. Les livraisons de documents sont régulières, organisées comme dans un roman d'espionnage, selon la technique dite de la boîte aux lettres mortes. Tamperville glisse ses photocopies dans un sac poubelle rempli de détritus. Il pose le sac au pied d'un poteau électrique. Il signale son dépôt en déposant 100 mètres plus loin des pelures d'orange. Il reste dans le coin. Une demi-heure plus tard, un paquet de cigarettes Dunhill déposé près des pelures d'orange lui signale que le sac a été emporté. Pour le contacter en cas d'urgence, les Russes jettent des pétales de rose en dessous du pont d'Orsay. Le Français sait alors qu'il va avoir un rendez-vous avec Serge. J'ai pris conscience que je mettais le doigt dans un engrenage, reconnaît Francis Tamperville. Le physicien est désormais piégé. Les soviétiques exultent, ils sont quasiment informés en direct des avancées du nucléaire militaire français. Ils vont toutefois perdre leur meilleur taupe, mais pas du tout comme ils s'y attendaient. Début 1990, le KGB se félicite du rendement de leur taupe française qui depuis une dizaine de mois les abreuve moyennant finance de pièces classées secret défense. Lors de l'enquête, la DST va établir que Francis Tamperville a sorti et transmis pas moins de 6000 pages de documents sensibles relatives au programme militaire nucléaire français. Le contrôleur général du service, Jackie Debin, indiquera que cette affaire d'espionnage est l'une des plus importantes jamais connues par la qualité des renseignements fournis aux Russes. Le CEA est toutefois intrigué par le comportement du physicien. On l'a surpris en train de photocopier à la chaîne des documents et les glisser dans un sac plastique. Rien de suspect. Ce sont des notes pour ses cours, précise Tamperville. Juillet 1990, la direction de l'établissement constate une succession de petits vols, des fournitures de bureaux, des cahiers, des gommes et des crayons. Tamperville et surpris la main dans le sac. Il expédie les fournitures à sa mère pour l'aider dans son commerce de papeterie, sans lui dire qu'il volait tout ça pour lui faire plaisir. 14 septembre 1990, l'ingénieur est viré du CEA pour ses menus larcins. Personne ne sait alors qu'il a commis bien pire. Les Russes sont furieux de cet accident de parcours. Ils conservent toutefois Francis Tamperville sous leur coupe, lequel, grâce à ses contacts et à ce qu'il a conservé dans ses dossiers, va pouvoir continuer à les alimenter en documentation. Les Russes vont même l'aider financièrement à mettre sur pied sa propre école de physique-chimie à hauteur de plus de 1,5 million de francs, dans l'espoir peut-être d'installer là une pépinière de jeunes espions. Septembre 1992, Tamperville rencontre pour la dernière fois Serge. Ce dernier lui présente son successeur, René, qui n'est autre que Valentin Makarov, lui aussi officier de renseignement russe. L'URSS est alors défunte, mais peu importe, c'est pour le SVR, l'ex-KGB, que Francis Tamperville travaillera désormais. Il va rencontrer René à 3 reprises pendant 1 an, jusqu'aux révélations du transfuge Otchenko. Vous m'apprenez que Serge et René étaient des officiers du KGB. J'en suis tout retourné, dira l'intéressé au début de cette interrogatoire. La taupe au service des Russes va rester longtemps en prison avant de comparaître devant une cour d'assises. Les juges vont alors découvrir un homme apeuré ou feignant de l'être qui se présente comme une victime. Jeudi 23 octobre 1997, Francis Tamperville apparaît devant la cour d'assises spéciale de Paris, composée de 7 magistrats professionnels. L'agent des Russes, désormais âgé de 40 ans, a l'air hagard. Après toutes ces années de détention et des aveux, il est désormais sur la défensive. À propos des centaines de photocopies effectuées au CEA, « Comment voulez-vous que je photocopie des documents secrets défense? Ce n'est pas sérieux. Je photocopiais beaucoup car je donnais des cours aux arts et métiers », dit-il. À propos de Serge et René, il martèle « Je n'ai jamais su que ces gens travaillaient pour le KGB. Je n'ai jamais dit que j'avais donné des documents. » Les policiers qui ont mené l'enquête détaillent les confessions de Tamperville, les documents trouvés chez lui, notamment les cartes détaillant les procédures de remise de pièces, pelure d'orange et pétales de rose à l'appui. Les avocats de Tamperville ont beau répéter que toutes les accusations ne tiennent que sur la parole d'un transfuge dont on ne sait même pas s'il existe réellement, les policiers ne lâchent rien. Appelé à témoigner, le capitaine Thierry Henry décrit l'accusé comme un homme sympathique et qui a un sens profond de l'amitié, mais, ajoute-t-il dans la foulée, il savait pour qui il travaillait, c'est un dissimulateur. Au 3e jour du procès, Tamperville finit par reconnaître « C'est moi qui me suis fait ma propre prison. C'est moi qui ai tout déballé. C'est moi qui me suis mis dans ce cauchemar », tout en minimisant la qualité et la quantité des documents remis. L'avocat général affirme que l'ingénieur atomiste est un tricheur qui n'avait qu'un seul but, l'argent, rien que l'argent. Le SVR d'aujourd'hui et le KGB d'hier ne sont pas une association caritative, dit le magistrat. L'accusé répond qu'il a agi sous la menace et puis il certifie « Je n'ai jamais voulu trahir la France ». Le procès de l'ingénieur atomiste se poursuit, le dossier paraît accablant et les magistrats ne croient pas à la naïveté de l'accusé. Il doit, selon eux, être lourdement condamné. Jeudi 30 octobre 1997, l'avocat général réclame 15 ans de prison contre Francis Tamperville. Un homme, dit-il, qui a trahi la France, trahi ses professeurs et même trahi sa maman qui était très fière de son fils. Il a roulé le CEA, il ne pourra pas rouler les magistrats, ajoute l'avocat général. Maître Jean-Didier Belot estime qu'il ne sert à rien de noircir le tableau d'un homme déjà fichu qui a largement payé et se traite lui-même de pauvre type. Les derniers mots sont pour l'accusé. Je suis quelqu'un de bien, je le jure. Si j'ai fait quelque chose de répréhensible, je ne l'ai pas fait exprès. Tout ce que je veux, c'est retrouver mes élèves. Francis Tamperville éclate en sanglots. Après 2h30 de délibéré, il est condamné à 9 ans de détention pour trahison. Au regard des 5 ans déjà passés en détention, Francis Tamperville va vite retrouver la liberté et se faire oublier. Il va continuer à enseigner dans une école privée d'ingénieurs de la région parisienne. Ceux qui le fréquentent alors le décrivent comme quelqu'un de très discret, bien loin du profil parfois ébauché, celui d'un homme de l'ombre qui vendait les secrets militaires de la France aux Russes.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.